anglaise, la crise a été aperçue dans l'année 2010. Jusqu'à l'année 2009, les jeunes n'avaient aucune idée que la crise qui a été déclenchée aux États-Unis dans l'année 2007 atteindrait la Grèce et même que la Grèce serait le premier pays de l'eurozone qui serait touché par cette grande crise du capitalisme mondial. On avait eu des élections fin de l'année 2009 et le gouvernement courant soit dit socialiste de M. Papandréou les avait gagnées ces élections en donnant des promesses d'une redistribution de la richesse vers le bas. Papandréou avait répété plusieurs fois avant les élections, il y a de l'argent. En fait, il était averti, il savait bien. Il avait discuté avec le chef de la Banque de Grèce, la Banque centrale grecque, que le pays allait vers une grande crise de dette publique. En cette époque, on avait presque 300 milliards de dettes publiques. Il était clairement impayable. On n'avait pas une discussion publique sur ça. Par contre, la Banque de Grèce, conduite par M. Provopoulos, elle avait évité chaque référence à la dette publique depuis l'entrée du pays dans l'euro, depuis 2001. Avant, le montant de la dette publique était une chose qui était discutée. Après l'entrée de la Grèce dans l'euro, ils avaient arrêté chaque référence. Et ça, le peuple grec ne savait pas, imaginait pas qu'on avait un tel problème. L'entrée dans l'euro avait créé une situation où les banques avaient beaucoup d'argent à louer. Ils pressaient les gens à prendre des crédits et aussi l'État grec avait pris beaucoup de crédits pour l'utiliser. Pas pour l'amélioration du niveau de vie, pas pour la création d'infrastructures, mais aux projets de luxe, aux projets comme les Jeux Olympiques dans l'année 2004, qui étaient trop, trop coûteux. Ils avaient créé des grands stades, des grands bâtiments publics qu'ils n'avaient aucune façon à utiliser après les Jeux Olympiques. C'était d'argent jeté. Aussi, il y a un grand problème avec les armements. La Grèce dépense plus que les autres pays aux armements, beaucoup plus. Un pourcentage de son budget est au numéro absolu aussi. La Grèce est le quatrième importateur des systèmes d'armement mondial. C'est énorme. Il y a une situation quasi permanente de crise avec la Turquie, dans laquelle les dirigeants de tous les deux pays ont une responsabilité commune. Il y a de très grosses sommes dépensées pour la flotte grecque qui participe aux expéditions au golfe Persique, à la mer Rouge, contrôle toute la Méditerranée Est. Par contre, il n'essaie pas d'empêcher, par exemple, l'utilisation de la mer Ionienne à l'ouest de la Grèce comme une poubelle pour les déchets toxiques d'Italie, des autres pays. La mafia italienne a jeté des bateaux pleins de déchets toxiques dans la mer Ionienne sans que la flotte grecque fasse rien. Mais elle est utilisée pour le contrôle de la mer de Somalie, des mers stratégiques, dans l'intérêt de l'OTAN. Aussi, on a des grandes dépenses pour une corruption organisée qui va jusqu'au Bruxelles. Pour chaque projet public en Grèce, il faut payer deux ou trois fois plus que pays comme la France ou l'Allemagne. Les réseaux de corruption allaient jusqu'au Bruxelles, étant passant par les politiciens grecs qui touchent un pourcentage dans toute dépense publique. C'est connaissance commune, mais la justice grecque n'a jamais mis en prison aucun des responsables, même si leur participation à des fraudes était prouvée officiellement, comme Monsieur Tsochatzopoulos, le numéro 2 du gouvernement grec socialiste aux années 90. La justice grecque est vraiment aveugle contre tout ça. Alors, on a une situation où les mafias européennes et américaines, des sociétés comme Goldman Sachs, qui avaient donné des prêts illégaux, selon la loi grecque, simplement pour cacher des trous dans le budget grec. Le peuple grec savait rien, et les politiciens grecs participaient dans le pillage, avec les couches dirigeantes de la communauté européenne. Il n'y a pas de contrôle démocratique dans l'Union européenne. On peut dénoncer, mais il ne contrôle pas la Commission européenne, il ne contrôle pas la Banque centrale européenne. C'est seulement pour cacher les déficits démocratiques de l'Union européenne. Alors, les Grecs savaient rien et pourraient rien faire dans ces situations-là. La dette publique avait augmenté et personne ne le savait. Et par contre, le gouvernement grec disait que tout va bien. Monsieur Papandréou a été élu avec le slogan « Il y a d'argent ». Il avait donné des promesses qu'il donnerait des milliards de plus pour l'éducation, pour l'instruction publique, et pour les dépenses sociales, en sachant qu'il n'honorerait pas ses promesses. Au début des années 2010, il avait commencé à changer le discours public. Même avant ces élections, il avait eu des pourparlers avec le Fonds monétaire international pour la suite. Et au début de l'année 2010, ils avaient commencé à parler du problème de la dette publique. Ils avaient essayé de diviser le peuple, de tourner les employés privés contre les employés d'État, les chauffeurs de taxi contre les routiers, et moins payés contre les mieux payés, mais aucune touchait les grandes issues qui étaient la participation dans l'euro qui avait affaibli l'économie grecque, point de désastre, et les non-paiements des impôts par les couches dominantes et la corruption générale, mais qui était pour les bénéfices des couches gouvernantes, pas pour les pauvres. Tous les trois problèmes avaient abouti à cette situation. Le gouvernement a essayé d'imposer un programme néolibéral pur. Selon ce programme, la Grèce deviendra un pays de capitalisme déchaîné, sans aucune protection sociale. Ils ont détruit les systèmes d'éducation publique, ils ont fermé plus de 1 000 écoles, ils ont changé la loi sur les universités pour pratiquement détruire l'université publique et ouvrir la voie pour la création d'universités privées, parce qu'il n'y a pas d'université privée en Grèce selon la constitution grecque. Et ils ont fermé dizaines de cliniques aux hôpitaux, et ils ont coupé le budget des hôpitaux, de la sécurité sociale, et des salaires. Dans les 2 années qui ont suivi, ils ont tourné la Grèce en un enfer pour les employés, pour les jeunes normaux. Par contre, les riches, les capitalistes, continuaient à avoir leur beau profit. Et avec les privatisations des biens sociaux qu'ils préparent, ils vont donner aux mafias tout ce qui appartient au peuple grec, tout ce qui a été créé par le peuple grec pendant les 2 derniers siècles. L'État grec est assez riche. On n'avait pas de programme de privatisation comme d'autres États. Maintenant, ils veulent prendre des îles, des forêts. Ils vont utiliser le grand potentiel de production d'énergie renouvelable en Grèce, énergie éolienne, énergie solaire, pour envoyer l'énergie en Allemagne, pratiquement. Il ne serait pas possible pour les Grecs de consommer l'énergie qu'ils produisent. ils avaient empêché le développement des renouvelables depuis 20 ans parce que la société d'électricité était publique. Et les mêmes partis qui ont conduit la Grèce dans cette crise de dette publique, les socialistes et la droite, ils ont empêché l'organisation publique d'énergie de faire d'investissements aux renouvelables. Maintenant, il y a des investissements aux renouvelables, mais à la privée, au prix très haut. Il y a une très grande subvention au capital privé et une destruction de biens publics. Et un autre grand problème en Grèce, c'est qu'il n'y a pas de taxes pour les riches. Les riches échappent à tout impôt. Les banques payent moins de 7% de leurs profits en impôts. Un travailleur comme moi paye 40%. Et d'impôts directs, sans parler de l'impôt indirect qui est plus régressif encore. C'est une situation comparable à la situation de France avant la Révolution. Ceux qui avaient la richesse ne payaient pas d'impôts. Le régime essayait de résoudre sa crise des finances publiques en alourdissant plus et plus les impôts des pauvres. Maintenant, on est arrivé à un point où ils demandent des taux pour les revenus qui sont mis dans les factures d'électricité. Et si on n'a pas à payer ces impôts très lourds, ils disent qu'ils vont couper l'électricité à des dizaines de milliers de familles. Déjà, il y a plus de 200 000 familles en Grèce qui n'ont pas d'électricité parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures. Dans les derniers mois, dans l'an 2011, et la crise sociale qui a été créée de ça est sans précédent en Grèce dès les années 40, 1940, de l'occupation allemande. Tout ça a créé une contestation. Il y a aujourd'hui un mouvement de masse plus fort que les autres pays d'Europe, à l'exception de l'Islande, où ils ont achevé de nier la dette publique. Il y a un très fort mouvement de masse. Par contre, les gouvernements, avec l'aide de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne de Francfort, elle essaie de détruire ces mouvements. Tous ces accords pour le sauvetage de la Grèce, comme on s'appelle, en fait, ne sont pas pour le sauvetage de la Grèce. Tous les milliards qui sont donnés à la Grèce vont directement aux banques qui avaient prêté au régime grec. Ni un euro arrive en Grèce de ces centaines de milliards. Et donc, c'est une subvention aux banquiers qui avaient donné de mauvais prêts à la mafia politique de la Grèce.
Les banquiers européens.
Oui, principalement français et allemand. Alors, tout ça, c'est une escroquerie contre le peuple de l'Europe. Ils disent que les Grecs ne payent pas leurs dettes, mais en fait, ce n'était pas des dettes du peuple grec. Le peuple grec ne savait pas l'existence de cette dette. Et il n'a pas pris aucun avantage de tous ces enrichissements de quelques élites qui mettaient leurs profits illégaux tout de suite aux banques suisses, par exemple. C'était une escroquerie contre le peuple grec. Ce qu'ils ont fait depuis le printemps de l'an 2010 est qu'ils essayent maintenant de prendre cette dette toxique des banques privées et le mettre au bilan de la Banque centrale européenne. Alors, c'est une escroquerie contre le public des pays d'euro qui participent à l'euro. Ils seront obligés de payer pour les dettes qu'ont créées les banques privées allemandes et françaises. Et la crise va atteindre les pays comme la France et l'Allemagne dans quelques mois d'ici. Cette crise des finances publiques, parce que les États, tous les États européens, l'État grec, l'État italien, l'État espagnol, l'État portugais, l'État irlandais, aujourd'hui la Banque centrale européenne, prennent les dettes toxiques de ces banquiers. Les banquiers prennent les profits et le public prend les dettes. C'est une escroquerie au niveau européen qu'il faut finir. Les Islandais ont montré la voie. Ils ont renié la dette. Ils ont fait crouler leur gouvernement Maintenant, il prépare une nouvelle constitution démocratiquement élaborée et qui va être peut-être la constitution la plus démocratique de l'Europe. En Grèce, on n'a pas encore gagné, mais je crois qu'on va gagner parce que le mouvement populaire est très fort et l'attaque du pouvoir de l'État, des banquiers, est très mal organisée. Les élites européennes ont pas été préparé pour une telle offensive et l'ont mal géré. Je crois qu'on voyera en Grèce une situation comparable à celle de l'Argentine dans l'an 2001, où on avait eu un changement de gouvernement. Ils ont changé quatre gouvernements, tous les quatre suivant les recettes du Fonds monétaire international, comme la Grèce, jusqu'au moment où on avait eu un soulèvement populaire et un gouvernement a dit on ne paye pas la dette. Aujourd'hui, je crois que le problème de la dette est crucial et central pour l'évolution politique de tous les pays européens. Il faut renier cette dette qui sont d'argent fictif en plus.
Quels pays ont déjà fait ça?
Islande, aussi Équateur. En Équateur, ils ont fait pareil. Il y a un documentaire très bon grec, Deptocracy, il s'appelle, où il explique la situation en Grèce et la situation en Argentine, en Équateur. Et on peut le trouver sur Internet et moi je dirais le voir parce que les situations qu'on décrit là vont arriver à l'Europe du Nord bientôt. Et il faut pas croire qu'il n'y a pas autre solution. Les élites disent qu'il faut payer la dette, il faut voir notre niveau de vie détruit pour que les banquiers aient leur argent. Mais en vérité, il ne faut pas payer les dettes, mais continuer à payer les salaires, les retraites, les dépenses sociales, pour nos hôpitaux, pour nos écoles. On peut faire ça. C'est soit nous, soit eux. Si on paye la dette, on ne paye pas pour la société. Si on paye pour la société, on ne paye pas pour la dette. L'euro a joué un très mauvais rôle dans ça aussi, parce que il a détruit l'économie grecque et aujourd'hui on ne produit rien dans l'agriculture grecque, une des pays les plus riches au niveau des productions agricoles, qui produit des produits d'autre qualité, maintenant a une agriculture ravagée. Les parties de l'agriculture dans l'économie grecque aujourd'hui est plus petite que les parties des téléphones mobiles. C'est un secteur d'économie plus grand, la téléphonie mobile, que l'ensemble de l'agriculture. On fait importation des produits comme l'huile d'olive d'Allemagne, les citrons d'Argentine, de l'Uruguay, des oignons de l'Inde. C'est incroyable pour un pays si riche en produits agricoles. Et il n'est pas nationaliste de dire qu'il faut consommer les produits locaux. Par contre, tout le système de l'euro aujourd'hui travaille pour les grandes sociétés qui font commerce de tels produits et détruit les petits cultivateurs et les consommateurs aussi. Si on ne change pas ce système, on ne va pas voir un essor économique. Ce n'est pas la fin du capitalisme. Ça, il sera aussi une solution capitaliste, sort-il de l'euro. Mais il donne le pouvoir à avoir une nouvelle politique économique qui créera des bases pour une économie non capitaliste. Quand on reste dans l'euro, on est aux mains des banquiers. C'est très clair. Et je crois que dans tous les pays d'Europe, il faut créer des mouvements pour la sortie de l'euro et pour le contrôle de la politique monétaire. Parce que la politique monétaire aujourd'hui n'est pas décidée en façon démocratique. Elle est décidée par la Banque Centrale Européenne qui, par sa constitution, n'a aucun contrôle démocratique. Elle est indépendante de tout pouvoir démocratique. Mais la politique monétaire est très importante parce que, par exemple, elle règle le taux de chômage. Elle règle comment on va dépenser ce qu'on a. Si on annule la dette, on met les bases pour une régénération de l'économie réelle. La situation qu'on voit aujourd'hui en Grèce, où l'économie des banques détruit l'économie réelle, est une situation qu'on va voir dans tous les pays européens au mois qui vient. Alors, il faut que le peuple européen apprenne, comme le peuple grec a appris de l'exemple équatorien et argentin, il faut que le peuple européen apprenne vite de l'exemple de lutte de la Grèce. On va avoir de très grands soulèvements aux semaines qui viennent en Grèce contre la politique du gouvernement. J'espère qu'on va gagner, il est fortement possible qu'on va gagner. Et on voyera aux autres pays européens le développement d'un discours où ce sont les Grecs qui ont tout dépensé, ils ne veulent pas travailler, ils veulent pas, ils veulent exploiter les autres peuples de l'Europe, un discours nationaliste et raciste contre les Grecs. La vérité est que les Grecs aujourd'hui, selon les données officielles, sont le peuple qui travaille plus de tous en Europe. Heures par semaine sont le plus haut en Grèce, dans tout autre pays de l'Union européenne. C'est presque 50 heures. Oui. Les économistes connaissent tout ça, mais on ne le trouve pas au discours populiste qui veulent créer des haines nationaux et qui mettent toujours à l'abri les banquiers et les capitalistes. Il faut avoir un esprit critique et voir comment on a créé cette situation et comment on va en sortir. La semaine prochaine, on va avoir une grève générale, 19 et 20 octobre. On aura aussi beaucoup de luttes pour le contrôle des rues. Le contrôle des rues par les syndicats, le peuple enragé. Et de l'autre côté, on va avoir une répression d'un niveau qu'on ne peut pas voir au pays démocratique. Aujourd'hui, en Grèce, on n'a pas même une démocratie restreinte comme on a aux autres pays de l'Europe. On a un régime autoritaire qui est plus autoritaire même que la junte des colonels qu'on avait aux années 60. C'est inouï. Ils ont détruit les droits de protestation. Ils ne laissent pas formés, disons, d'union de revendications. Ils utilisent les groupes fascistes contre le peuple. Et ils ont même arrivé au point de jeter de l'université des professeurs parce qu'ils n'aiment pas leur position politique. Des choses qu'on n'a pas vues en Grèce depuis le temps des colonels. C'est un régime autoritaire qui ne mérite pas aucun respect de la part du peuple grec ou des autres. Mais il existe sans aucune couche sociale qui le soutienne en Grèce, mais seulement grâce au soutien de l'Union européenne et de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. Je crois qu'on entre dans ce que de grands penseurs de la gauche radicale, comme Emmanuel Wallerstein, comme David Harvey, on décrit comme la crise terminale du capitalisme. Le capitalisme n'est pas un système donné de la part de bon Dieu, c'est une création humaine, un système qu'on a créé au niveau mondial il y a 500 années et qui maintenant est mené vers sa chute. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va venir après. Ce qu'on va venir après dépend sur notre action. Il pourrait être un nouveau système qui combinerait les mauvais aspects du système capitalisme et des autres systèmes du passé, qui conduiraient au paroxysme, hiérarchie, l'autoritarisme, la destruction écologique, ou on pourrait avoir un système qui serait peut-être pas l'anarchie ou le communisme, mais qui serait bien plus démocratique, bien moins patriarcal, bien plus conforme aux idées de la liberté, de l'égalité, de la solidarité. Mais tout ça dépend de notre action.